France Musique.
Le magazine de la contemporaine. La folie des rois fait-elle bon ménage avec la musique ? Il semble en tout cas que le sujet soit difficile, si l'on en juge par les atermoiements et les dérobades que l'on relève dans l'histoire de la musique en face d'un tel défi. Et pourtant, on rit franchement au collage tragicomique de Zimmermann pour les soupers du roi Ubu, et l'on prend peur lorsque l'on voit un chanteur-acteur de la trempe de Georg Nigel incarner le roi fou mis en musique par Peter Maxwell Davis. C'était vendredi dernier à la Philharmonie pour le dernier concert de l'ensemble intercontemporain, et nous l'avons d'ailleurs enregistré pour vous. Et puis, depuis une semaine, à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, et c'est jusqu'au 12 juin prochain, on peut assister à un spectacle d'une intensité dramatique et musicale tout à fait exceptionnelle. Il s'agit de la nouvelle production de l'opéra Lear d'Aribert Reimann, magnifiquement servie par une distribution vocale de première catégorie, un orchestre d'une rare subtilité, un chef qui sait ce qu'il veut, Fabio Luisi, dans une scénographie convaincante et une mise en scène juste et précise de Callisto Beito. Il faut dire que le rôle principal, celui du roi Lear, est incarné jusqu'au moindre geste, jusqu'à la démarche, jusqu'au regard, par un extraordinaire Boscovus, aussi crédible dans les attributs du pouvoir que dans sa déchéance. Certes, on n'a pas vu Dietrich Fischer-Dieskau dans ce rôle au moment de la création de l'opéra de Reimann, c'était il y a presque 40 ans, mais on imagine que Boscovus ne démérite pas en regard dans ce personnage. Voici un petit extrait, nous sommes à la toute fin de l'opéra. Le roi Lear tient dans ses bras le corps inerte de sa fille Cordelia et il prononce ses dernières paroles sur un tissu orchestral d'une splendeur assez inquiétante. La fin de l'opéra Lear d'Aribert Reimann avec Boscovus dans le rôle-titre. Fabio Luisi aux commandes de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Encore 4 représentations, les premiers 6, 9 et 12 juin. Et puis vous pourrez retrouver cette production sur France Musique le 18 juin prochain dans l'émission Samedi soir à l'Opéra. C'est l'heure du reportage. Pierre Rigaudière a rencontré deux des protagonistes du concert que nous écoutions tout à l'heure, le compositeur Manfred Troyan et puis son ancien élève Matthias Pintscher.
Manfred Troyan.
Je suis entre deux mondes, on peut dire entre trois, l'Italie et l'Allemagne. Avant, j'étais en France, j'ai voulu être en France depuis ma petite jeunesse. Ça vient d'un livre de mon père. C'est un livre pendant la guerre. Mon père était dans le sous-marin à Lorient. Et cet livre, que je garde jusqu'à aujourd'hui, m'a donné tout l'amour pour la France et pour Paris en spécial, parce que j'ai vu de petits dessins et toutes les choses. Et j'ai toujours dit, bon, ça c'est une ville où je veux vivre. Maintenant, je suis avec Rome, un peu pareil comme avec Paris. Ce sont mes villes, on peut dire. Et je connais Rome comme Paris vraiment bien. Au début, j'étais très proche de Ligeti parce que je n'ai pas travaillé avec lui, mais il était le même temps que moi à Hambourg. Et j'étais très fasciné par ce type de l'homme, on peut dire. Parce que je n'ai pas connu avant, en Allemagne, cette sorte de l'homme. J'ai fait la connaissance de plusieurs ici en France. Nous avons notre raison historique pourquoi on n'a pas trouvé beaucoup de cette juif intellectuel en Allemagne, bien sûr. Mais comme jeune homme, j'étais absolument aux genoux devant lui et j'étais influencé aussi de sa musique. Et j'ai trouvé un autre type qui m'a fasciné, c'était Gustav Mahler. Bien sûr, j'ai compris Gustav Mahler avec la lunette d'Adorno. Aujourd'hui, je crois que Mahler est absolument plus pur que nous avons cru à cette époque. Mais à cette époque, j'ai cru que toutes les choses sont un peu ironiques. Et aussi, ma musique était un peu ironique, mais on n'a pas pris comme ironie. Et après, j'étais une sorte d'interprétation de tout le monde, c'est un type qui est spätromantisch, c'est le mot que je crois qu'il y en a aussi utilisé ici. Et je crois que ce n'était pas vraiment vrai.
Manfred ose rester simple si c'est nécessaire.
Mathias Pincher.
Il a bien compris quoi inclure sur une page dans la partition et quoi éviter. Et parfois, j'ai vraiment une seule note ou même une résonance, un réverb ou quelque chose avec très peu d'informations qui sonne, qui définit nos souvenirs, nos sensations. Mais il faut aussi vraiment faire attention que le matériel, ce qu'on met sur le papier, est de bonne qualité. Hein. C'est comme, je cite toujours le début de La Mer de Debussy. Chaque fois qu'on entend cette merveilleuse partition dans une grande salle, on se met dans une condition de surprise parce qu'on entend un paysage sonore qui est très 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 riche, mais il y a très peu d'informations sur le papier. Comme avec des symphonies de Schubert, très peu de notes parfois, même Bruckner en trémolo, une geste unisono par quelques bois, et ça remplit nos sensations, ça suffit parfois. Et c'est fascinant en répétant en orchestre, avec des partitions qui sont super complexes, on répète parfois ce mot des clarinettes avec les pits des contrebasses et des bongos, juste pour la justesse ou la précision, n'importe pas. Et c'est marrant parce qu'on pense, bon, franchement, ça suffit. Hein, et il y a pourquoi encore 60 musiciens qui jouent en même temps, parce que ça suffit hein, pour faire un point musical. Hein.
J'ai lu, c'est longtemps, j'ai lu un livre sur la Minotauromachie qui a quelque chose à faire, bien sûr, avec les taureaux que Picasso a beaucoup aimé. Moi, je suis fasciné. Je ne peux pas dire que j'aime les taureaux. J'étais une fois dans une corrida, mais dans ce livre qui fait une sensible analyse de cette gravure, j'ai appris les relations entre le Minotaure, qui signifie Picasso à la fin, et les filles et les femmes. Et je trouvais, bien sûr, dans cette toile ou cette gravure, une concentration de cet aspect qui j'ai beaucoup aimé, ou qui, je ne peux pas dire aimé, qui m'intéressait beaucoup. Pour ça, je dis, je vais prendre le titre de cette gravure pour ma pièce. Mais c'était 2 ans avant, et après, j'avais beaucoup de problèmes trouver une possibilité de travailler avec ce titre. Ça, c'était vraiment une très longue période où je n'ai pas pu faire quelque chose. Et j'ai dit, bon, je veux bien avoir cette gravure. Impossible, bien sûr, parce que j'ai pas les moyens d'acheter un truc comme ça. Et plus tard, ma femme m'a trouvé un catalogue d'une galerie à New York avec tous les états. On a 8 états. Et après, je suis... Bon, maintenant, je sais qu'est-ce que je peux faire. Bien sûr, je n'ai pas voulu faire la même chose que Picasso. Je n'ai pas écrit une description de cette gravure ou de cet état de gravure. Mais j'ai cherché une parallélité sur les gravures. J'ai fait le même travail musicalement. Et ça, c'était possible pour moi dans un moment au début décembre. Et pour ça, j'ai fait ça dans une fourrure d'écrire qui j'ai pas connue avant. Je suis quelqu'un qui, normalement, relativement bien organisé.
Manfred, depuis très longtemps, comme moi, était toujours très fasciné par la culture française, par la langue française, par tous les aspects des choses francophones. S'y inclut la littérature, la poésie, la peinture, l'architecture, la gastronomie, etc. etc., etc. Et finalement, avec moi à la tête de l'ensemble de l'art contemporain, j'ai pu passer une commande à mon ancien professeur. Ça, je trouve vraiment drôle, hein, parce que maintenant, c'est moi qui peux offrir un cadeau amical, hein. Ça me touche, hein. Et c'est vrai, j'ai l'impression que Manfred a vraiment essayé de, et réussi de faire quelque chose de très différent. Il était apparemment inspiré par Rituel de Pierre Boulez. Il a essayé d'installer un système qui discipline les sonorités. Mais en même temps, il y a un flux aussi dans cette musique, hein. Ça semble certainement pas rigide, ça semble à l'aise, mais avec des tessitures que je n'ai pas connues avec Manfred. Et ça me fait envie à me plonger dans ces sonorités, parce que c'est quelque chose de nouveau, pas seulement pour nous, mais pour lui-même. Ça me fascine, ce moment où on est très vulnérable comme auteur, où on essaie vraiment à se détacher des expériences qu'on a vraiment établies avec un grand succès, comme Manfred, comme Beethoven. Chaque symphonie est vraiment consciemment détachée l'un de l'autre. Il a vraiment jeté tout pour rester fraîche et frais et inspiré en même temps.
46
Motor
Mathias a maintenant une assistant, Gregor Meyerhofer, qui était mon élève. Il a fait son examen 2 ans avant, je crois. Il était le premier qui a travaillé cette pièce avec l'ensemble. Et ça, c'est bien sûr, c'est une situation un peu, pas étrange, mais amusante. Hein. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans la profession, qui font des opéras, qui sont des compositeurs qui peuvent travailler. Et ça, ce n'était pas mon plan. Je ne suis pas vraiment un professeur. Je crois en France, je n'ai pas pu faire ça. Parce que j'ai aucun examen. Bien sûr, j'étudie, mais j'étais toujours un type très libre et très indépendant. Si j'avais beaucoup de problèmes avec l'argent, bon, si on a assez d'argent, on peut être indépendant très facile. Mais par hasard, on m'a laissé être professeur et j'avais une position super libre. Et j'ai trouvé quelques personnages exceptionnels comme Mathias. Et au début, c'était une très grande amitié. Après, on a se perdu un peu. Et maintenant, on a se retrouvé. C'était très amusant. Il est un très bon chef. Et il est un très bon compositeur, mais il n'a pas beaucoup de temps. Et pour moi, c'était toujours le premier truc composé. Et pour ça, j'étais très prudent avec le chef d'orchestre parce que j'ai beaucoup aimé. L'autre côté, ça coûte beaucoup de nerfs. Et beaucoup de temps. Et pour ça, j'ai pas voulu faire ça dans le même style.
Merci Pierre Rigaudière pour ce reportage qui était mixé par Benjamin Vignal et réalisé par Marie Groux.
France Musique.
Bonsoir Yann Marèche.
Bonsoir Arnaud.
Vous êtes à l'affiche du festival de l'IRCAM qui a lieu tous les ans au mois de juin. Ça s'appelle Manifeste depuis quelques années. Et vous êtes à l'affiche 2 fois, le 10 juin pour une reprise d'une pièce qui s'appelle Tutti, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis samedi prochain, c'est une création, ça s'appelle Réplique au pluriel. Et c'est pour harpe augmentée et orchestre. Alors on va tout de suite aller dans le dur. Harpe augmentée, qu'est-ce que ça veut dire, Yann Marèche?
Ah, alors... Depuis quelques années, le département d'acoustique à l'IRCAM travaille sur une extension des instruments acoustiques qu'ils appellent Smart Instruments.
Comme on dit un smartphone ou...
J'espère, ça, oui, je crois que c'est ça. Il s'agit en effet plus de diffuser le son électronique et la transformation du timbre instrumental que l'on applique sur l'instrument même. À partir de sa caisse de résonance et donc de s'affranchir des haut-parleurs. Donc on bénéficie du rayonnement de l'instrument, donc on enlève un petit peu ce problème de la platitude des haut-parleurs en regard de l'instrument acoustique, et aussi au niveau des traitements ou des possibles extensions électroniques, on peut faire tout un travail de finesse, de transformation du timbre de l'instrument, qui est tout à fait étonnant quand on est en face d'un instrument réellement smart.
On l'a entendu par exemple au Quatuor Accord, au cours de la Biennale de Quatuor Accord à la Cité de la Musique, à la Philharmonie, cette année, mais est-ce que c'est applicable à tous les instruments?
Alors, on a travaillé pendant un an avec Adrien Mamoumani et Thomas Göpfler, qui est le réalisateur en informatique musicale musicale sur ce projet. Et on a obtenu quelques résultats. Cependant, le temps de la recherche et le temps de la production ne sont pas les mêmes. Et il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, finalement, pour arriver à faire fonctionner ce qui marche sur d'autres instruments pour la harpe. On s'est retrouvé face à des problèmes vraiment très complexes à résoudre, qui auraient pu être résolus, mais... Peut-être pour une pièce soliste électronique, ça vaut le coup parce qu'on peut percevoir des choses assez infimes, mais avec un orchestre, vu la complexité d'un projet de ce type, j'ai préféré simplifier la partie smart. Le son reste entièrement diffusé et exclusivement à partir du corps de l'instrument. Il n'y a donc pas de haut-parleur dans cette pièce, mais nous ne travaillons pas réellement dans une boucle temps réel entre l'entrée et la sortie du son, entre le micro et le haut-parleur à l'intérieur de l'instrument.
Mais c'est un projet pour plus tard, peut-être.
C'est un projet, bien sûr. La recherche continue. Et peut-être même la pièce s'agrandira d'un grand solo. Rien n'est exclu.
Ça sera réplique 2. Réplique le retour, peut-être. Alors, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec des harpistes, et particulièrement avec Nicolas Tullier, qui est le soliste de ce concerto. Est-ce que c'est un concerto, d'ailleurs ?
Alors, oui, ça peut être un concerto.
C'est concertant.
Ce qui est concerto, c'est que finalement, quand c'est la disposition spatiale, le soliste à la gauche du chef devant l'orchestre. C'est aussi une demande d'une pièce pour Nicolas avec l'orchestre, donc c'est évident que c'est pas juste...
C'est un musicien que vous connaissez de longue
date. Alors voilà, je le connais depuis 30 ans maintenant. J'ai déjà écrit deux pièces pour lui, dont une solo inédite qu'il joue encore, et une pièce qui s'appelait Al Segno en 2000, qui était un ballet réalisé à l'IRCAM avec la compagnie de François Raffineau pour harpe, guitare, cymbalum, qui est plus tard devenu Sul Segno, qui est à peu près la même pièce sous la forme d'une suite à laquelle j'ai rajouté une contrebasse. Et donc c'est les deux projets avec lesquels nous avons travaillé. Et donc ce projet-ci s'inscrit dans une collaboration à très long terme donc avec mon ami. On s'est connus aux États-Unis à la Juilliard School, nous étions étudiants à la même époque.
Ça veut dire quoi, Al Segno et Sul Segno ?
Al Segno était le titre du ballet de François Raffineau. C'était tout un travail sur le retour au signe, qui était, c'était lié aux sections de la pièce, qui étaient un petit peu comme des poupées gigognes, se répétant, c'était une forme assez complexe. Et Sul Segno, c'est tout simplement moi qui réécris une pièce sur le signe qu'on avait fait.
On écoute un extrait de cette pièce Sul Segno, dans un enregistrement d'ailleurs réalisé par l'ensemble intercontemporain. Je crois que c'était sous la direction de Jonathan Nott. Là, évidemment, c'est pas dirigé,
c'est une pièce
de musique de chambre. Un extrait de Sul Segno de Yann Maresch par les solistes de l'ensemble intercontemporain. C'était il y a une douzaine d'années. Ça avait été créé d'ailleurs au centre Pompidou dans le cadre du festival de l'IRCAM qui à l'époque s'appelait Agora. Yann Maresch, on vous retrouve donc samedi prochain avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Julien Leroy. Et puis en soliste, Nicolas Tullier à la harpe qui est en train de travailler tout ce que vous lui avez écrit. Pas forcément toujours facile. Donc c'est quand même un concerto, dites-moi.
Oui, bien évidemment. Je n'ai pas appelé la pièce concerto pour harpe, tout simplement parce que je pense qu'au niveau de la forme et de la manière dont on perçoit le rapport entre le soliste et l'orchestre, il y a peu de lien avec ce qu'on attend d'un concerto. Il n'y a par exemple pas de cadence, il n'y a pas de dialogue entre le soliste et l'orchestre. Donc la pièce est vraiment pensée comme un continuum,
comme une résonance,
un continuum souvent rythmique, harmonique, et l'orchestre et le soliste sont continuellement ensemble. Évidemment, la partie de soliste est en avant, elle est redoutable et en plus elle est augmentée. Donc ça veut dire que ce qu'on perçoit est augmenté d'une partie qui se mélange à l'original, qui brouille complètement la perception. Donc il est vrai que quand on voit l'instrumentiste jouer, on distingue beaucoup plus facilement ce qui provient de son jeu et ce qui ne l'est pas. Mais il y a des moments où la différence devient pratiquement indécelable et c'est voulu. Donc évidemment, il y a cet élément-là, plus l'articulation un petit peu ondulatoire entre un continuum orchestral et une partie soliste, l'un prenant le devant, l'autre passant devant, etc. etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on ne va peut-être pas retrouver la sensation de concerto, mais c'est ma manière aussi de résoudre le rapport du soliste à l'accompagnement orchestral. Pareil dans ma pièce pour clarinette et ensemble, par exemple Eclipse, dans laquelle il y a un rapport continu, c'est comme un solo accompagné, plus qu'un concerto avec tout ce que cela comporte.
On a l'impression dans votre musique, Yann Maresch, puisque vous travaillez beaucoup sur l'orchestration et vous travaillez aussi sur le rapport avec l'informatique, que finalement les paramètres ne jouent plus tout à fait le même rôle que dans la musique disons plus traditionnelle, c'est-à-dire que finalement entre la pulsation, entre le timbre, l'harmonie, tout ça finalement concourt à une même chose, à une même globalité qui est peut-être plus difficile à discerner.
Oui, j'ai toujours trouvé difficile de dissocier les différentes strates qui constituent le discours musical, que ce soit la conception, on va dire, des hauteurs dans un sens tel qu'on l'a
classique,
pratiqué
oui.
Et appris, qui a tendance d'ailleurs à disparaître, mais on peut parler dans le même ordre d'idée de l'énergie, du rythme, du temps, des timbres. Ça a toujours été quelque chose de très associé. J'ai beaucoup de mal à séparer les événements. Donc, par exemple, de penser les hauteurs indépendamment des timbres et ensuite appliquer des durées est une manière de faire qui ne m'a jamais convenu. En ce sens aussi, j'ai été évidemment fasciné et influencé par le travail de Ligeti. Donc, c'était plutôt sur ce type d'approche d'une globalité sonore et d'un détail par le timbre de cette vie interne, finalement, d'une image sonore que l'on se projette d'écrire ou de réaliser, qui fait que je travaille sur ces continuums dont l'énergie rythmique est l'un des moteurs principaux, parfois caché d'ailleurs, mais il y a toujours une horloge atomique dans tout mon travail.
Vous parlez de Ligeti, j'imagine que c'est quelqu'un qui vous a marqué. Sur le plan de la pensée, on pourrait aussi évoquer Stockhausen, qui avait une pensée globalisante.
Globalisante, mais beaucoup plus rigoureuse que la mienne, dans son cas, puisque moi je suis beaucoup plus pragmatique, et donc je m'accommode des situations. En ce sens, je me sens plus proche de Berio que de Stockhausen. Mais Stockhausen reste évidemment important, ne serait-ce que pour son apport, pour moi, ce qu'il m'a appris avec la musique électronique, et sa musique électronique particulièrement, et aussi la forme évidemment.
Le 4 juin, donc c'est samedi prochain, cette création réplique avec Nicolas Tullier en soliste. Et puis 3 jours plus tard, on entendra, quelques jours plus tard, le 10 juin, on entendra, 6 jours plus tard, on entendra la reprise de Tutti qui était créée en 2013, toujours dans le cadre du festival de l'IRCAM. C'était l'ensemble Musique Fabrique sous la direction de Peter Rundel. On en écoute un extrait. Extrait de Tutti pour ensemble électronique de Yann Maresch, une pièce créée en 2013, l'ensemble Musique Fabrique dirigé par Peter Rundel. Alors Tutti, c'est une pièce pour ensemble, mais aussi pour ensemble et électronique. Qu'est-ce que ça signifie, Yann Maresch? Ça veut dire que l'électronique ici est constitutive de la pièce autant que l'ensemble? C'est pas de l'électronique rajoutée, là?
Ah, pas du tout. Elle est non seulement constitutive, mais il est tout simplement inconcevable de jouer la pièce sans sa partie électronique. D'ailleurs, la répéter sans l'électronique n'a même pas de sens. C'est assez angoissant comme expérience. ce qui se passe, c'est que ma production avec électronique est assez petite en réalité, mais de la pièce soliste au petit ensemble, à 7 instruments avec le Paris qui dort, la musique du film de René Clair. Approcher la musique d'ensemble et encore plus d'orchestre me semblait d'une grande difficulté, parce que j'ai toujours considéré ou trouvé qu'il y avait très très peu d'espace pour l'électronique quand on avait un ensemble instrumental qui jouait surtout avec le détail de l'écriture qu'on pratique aujourd'hui. Alors, ma proposition pour cette pièce était de tenter un rapport dans lequel il y avait un petit peu moins d'écriture instrumentale. Je parle du détail, je parle des modes de jeu, des micro-phénomènes que l'on rajoute pour le timbre, etc. Et essayer de compléter la musique de l'ensemble par celle de l'électronique qui venait faire ce rôle. Alors, c'est pas un rôle d'ornement, mais ça peut l'être, effectivement. Et donc, Tutti fonctionne d'une manière par grande vague d'invasion dans l'espace du public, en réalité, puisque l'ensemble sur scène est parfois complété d'une électronique derrière l'ensemble, ce qui fait qu'on perçoit un ensemble complété par donc des modes de jeu électroniques. Et parfois, cette musique électronique s'échappe de l'orchestre pour venir contaminer l'écoute dans la salle et devient une musique électroacoustique, clairement séparé de l'orchestre. Par contre, on comprend bien que cette musique a complètement été générée par le jeu de l'orchestre. Donc il y a un travail vraiment d'écriture du temps réel continu dans Tutti. Et donc ces allers-retours permettent réellement une perception de l'électronique différente, d'autant qu'elle est aussi structurellement pensée en termes, par exemple, de subdivision disons du moteur rythmique qui tient toute la pièce. C'est une sorte de moteur qui est en réalité depuis le début, sauf qu'on l'entend progressivement que quand les fenêtres nous permettent de l'entendre, des sortes de fenêtres temporelles sur l'énergie de cette espèce de moteur qui peut se suspendre, mais c'est toujours lui qui finalement gère tous les événements, même quand la musique est plutôt calme et suspendue.
Vous disiez que vous auriez pu appeler cette pièce Ripieno. Alors là, ça fait référence à quelque chose d'important dans l'histoire. C'est ce qu'on appelait le concerto grosso, tout simplement, oui. Avec un petit groupe d'instrumentistes solistes et un groupe plus important. Est-ce que c'est comparable à cette situation de l'électronique et de l'ensemble?
Alors, en fait, j'ai pensé au début, mais non, parce que c'est vraiment tout petit. Parce que les deux choses sont continuellement ensemble. Mmh. Donc le tutti, c'est plutôt l'ensemble et l'électronique, pour une fois, réellement, ne faisant qu'un. En gros, l'électronique de coloration est efficace. On peut écrire à peu près, je pourrais même écrire, je fais ça avec mes élèves parfois, d'écrire des parties électroniques sur des pièces existantes. Mm-hmm. Ça marche très bien, mais ce n'est pas un rôle pour l'électronique qui me suffit.
C'est vrai que je suis très attiré. C'est trop...
Non, c'est juste que l'électronique, je veux dire, on ne se permet pas d'écrire des choses comme ça sur les instruments, donc pourquoi on se le permet dans l'électronique? J'aimerais bien, ou en tout cas j'espère arriver dans mon travail, à arriver à une écriture électronique aussi détaillée que celle instrumentale. C'est quelque chose de très important, d'autant que je ne fais pas une recherche sur le timbre instrumental dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque pour moi, justement, toute la modernité de mon siècle, c'est l'électricité. Et donc, je me suis engagé à corps perdu dans l'électronique et la diffusion du son électronique. L'augmentation de l'instrument par l'électronique est quelque chose qui me fascine. Donc voilà, cet aspect de la technologie qui se perd un petit peu dans les jeunes générations, c'est pas ce que je pratique. Donc pour moi, l'écriture de l'électronique a une importance. Je peux pas juste l'utiliser comme une coloration supplémentaire d'une pièce qui marche très bien sans elle.
Comment est-ce qu'on termine une pièce comme ça, une Tutti? Comment est-ce qu'on imagine une coda?
Alors le problème de Tutti, c'est une pièce qui descend tout le temps. Mm-hmm. Elle paraît monter, mais elle descend. Et elle descend avec une espèce... oui, ce sont plutôt des structures qui sont tirées vers le ralenti et vers la descente. Il se trouve qu'en fait, ça finit par une coda complètement absurde, qui n'a rien à voir avec le reste de la pièce. C'est le même moteur, par contre. C'est juste que c'est une autre fenêtre sur ce moteur invisible qui court depuis le début, et une simplification dans le domaine des fréquences. On a là une simple modulation en anneau autour d'un simple accord de Do majeur, avec un son, vous allez voir, de cordes et de musique électronique qui vient se suspendre, et cet élément monte jusqu'à la dispersion dans le néant.
Donc il avait raison, on peut toujours écrire en Do majeur.
Thank you.
La coda de Tutti pour ensemble électronique de Yann Maresch, toujours l'ensemble Musique Fabrique dirigé par Peter Rundel. J'aime bien votre conception du do majeur, Yann Maresch. Il y avait pas que du do là-dedans.
Non, il y a des quarts de ton partout.
Il y avait
partout.
Autre chose.
Oui, oui, il y a des quarts de ton partout, en fait.
Il m'a bien semblé. Hein.
C'est un do gluant.
Oui, si vous voulez, comme le riz gluant.
Oui, ça colle. Oui.
Alors, vous écrivez des fois pour orchestre sans électronique. Ça vous est arrivé notamment pour un spectacle chorégraphique de Jean-Christophe Maillot, pour les ballets de Monte Carlo. Mais là aussi, il y a eu une intervention de l'électronique diffusée dans la salle. Ça, c'est peut-être
absolument
plus simple.
Oui, oui, non, c'est un projet tout à fait différent. Là, pour le coup, c'était l'idée même du ballet. C'est justement une compagnie donc de danse qui exécute un ballet sur scène avec l'orchestre dans la fosse et qui, en deuxième partie, la construction du ballet nous fait revivre la construction chorégraphique de cette pièce.
Oui, ça s'appelait Recto Verso.
Voilà, donc en réalité, nous avions réellement l'orchestre dans la fosse et il partait en plein milieu, une fois d'avoir fini de jouer. Il partait d'ailleurs assez bruyamment et la musique électronique commençait à partir de là. Bien évidemment, les 45 minutes de musique électronique qui succédaient aux 30 minutes d'orchestre étaient faites sur bande, pour son fixé. Mais nous avions au préalable enregistré l'orchestre en multipiste pour me permettre de faire cette bande. Donc là, il y a évidemment, on peut imaginer ça comme une pièce en deux parties. Une première qui ressemble à un spectacle de danse traditionnel avec un orchestre en fosse. Et puis une deuxième partie dans laquelle on se retrouve avec une musique de son fixé et une action qui continue sur la scène.
Quel est votre rapport précisément aux musiques de scène ou aux musiques qui servent à l'illustration ? Vous faisiez allusion tout à l'heure à un film de René Clair. Là, c'est pour le ballet. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important dans votre activité ? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez l'impression que la musique, malheureusement, parfois passe au deuxième plan ? J'imagine que ça dépend des projets.
Deuxième plan, non. J'ai pas trouvé ça dans les deux expériences que j'ai eues, ce n'est pas tant que ça. Et en fait, j'ai jamais senti de frustration. Au contraire, j'ai toujours trouvé ces deux projets ont été passionnants à faire, justement parce que le rôle de la musique est un petit peu différent. Et j'avoue que j'aime bien le travail de collaboration.
On connaît des compositeurs qui sont parfois déçus par leur rapport, leur relation avec des cinéastes, par exemple. C'est pour ça que
ça peut arriver. Mais je pense que les contraintes au cinéma sont beaucoup plus complexes à gérer que ce qui m'est arrivé dans le cadre d'un spectacle de danse auquel je participais d'ailleurs en tant que concepteur. Donc c'était assez facile d'intervenir. Quant au René Clair. C'est une expérience qui a été extraordinaire et qui ne m'a posé aucun problème. Je rêverais de pouvoir continuer dans cette voie-là. Je cherche depuis de nombreuses années à travailler pour le cinéma, mais pas sur une musique de film, mais plutôt sur une œuvre cinématographico-musicale qui serait un petit peu l'opéra que je n'écrirais jamais, puisque l'opéra ne m'intéresse pas. J'ai toujours parlé de ce projet de cinéma, et je rencontre des vidéastes, et ça fait 20 ans que ça dure. J'ai toujours pas trouvé de solution à ce problème.
Mais vous en avez trop dit ou pas assez, pourquoi pas l'opéra ? Parce que, par exemple, ces jours-ci, on voit l'opéra Lear de Reimann à l'Opéra de Paris, on s'aperçoit que ça fonctionne.
Écoutez, pour moi, ça
d'aujourd'hui.
Pour moi, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. J'ai du mal avec l'opéra, d'où qu'il vienne. Donc, ça a toujours
même
été.
Même Ligeti.
J'ai toujours eu un problème avec la maison d'opéra, avec la voix, probablement, avec ce qui se passe sur scène. Non, vraiment, le cinéma m'attire beaucoup plus. Je sais que c'est une tare, mais j'ai essayé de nombreuses. Non, mais moi, je le pense. Je sais qu'il me manque quelque chose, mais pour le coup, comme ça ne m'a jamais accroché et que je n'ai jamais réussi à accrocher malgré de nombreuses tentatives, force m'est de constater que c'est pas la peine. Et donc, voilà. C'est pas pour moi.
Pas d'opéra. Mais du ballet.
Thank you.
Un extrait de Recto pour orchestre de Yann Maresch, l'orchestre symphonique de la BBC, sous la direction de Pierre-André Valade. Alors, vous faisiez allusion, Yann Maresch, à votre itinéraire dans les pièces avec dispositif électronique. Il y a une pièce qui a beaucoup marqué, c'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus, même en 95. Ça s'appelait Metallix. Et vous avez travaillé sur toutes les sourdines, toutes les sonorités qu'on peut obtenir en travaillant sur le timbre de la trompette. Et puis c'est ça qui a nourri en fait l'électronique et c'est parti de là. Et ça a eu beaucoup de succès cette pièce.
Oui, c'est vrai. Voilà un exemple justement de comment l'ordinateur et ce que je savais faire à l'époque avec l'informatique musicale me permettait de traiter un cas concret d'un instrument qui, dans la réalité, utilise des sourdines. Et l'idée de lui faire jouer sans sourdine et d'entendre des sourdines faites par un ordinateur était quelque chose de tout à fait excitant à l'époque. J'y suis partiellement arrivé. J'avais pas vu le nez au milieu de la figure, qui était qu'une fois la trompette sur scène, elle allait couvrir tout ce qui allait se passer dans les haut-parleurs. Mais bon, on apprend comme ça. Donc ça marche par moment. Mais évidemment, au niveau de la recherche, ça m'a permis évidemment de trouver quelque chose que j'ai continué à utiliser. Et aussi la manière d'aller explorer l'intérieur du son instrumental, d'aller écouter finalement tout ce qui est résiduel, tout ce qui n'est pas audible. Prendre un instrument et lui enlever finalement sa partie harmonique nous laisse avec le bruit de l'air dans les tuyaux, la salive, enfin, il y a donc tous ces éléments que j'ai récupérés grâce au traitement informatique et qui font partie de la pièce, surtout de la dernière section qui traite exclusivement de son bruité de trompette.
Alors ces sons qu'on pourrait appeler des sons sales d'une certaine manière, est-ce que ça vous vient au moins en partie de votre fréquentation du milieu du jazz, surtout quand on pense à la trompette?
Oui, les sons sales, je ne sais pas si ça vient de là. Pour le coup, c'était... Alors, voilà quelque chose l'idée de la saleté dans Metallix, c'est vraiment une projection d'un constat qui est certaines sourdines ont plus de composants bruités que d'autres. Et j'en ai tiré une forme qui est en fait du son le plus pur jusqu'au son le plus bruité.
Oui, il y a la bonne, la sèche, la harmone, la wah-wah, la whisper.
Whisper, et chacune de ces sourdines, jouées dans certaines conditions, peut finalement générer une quantité de bruit. J'entends par bruit tout ce qui va être son parasitaire, peut générer donc une quantité de bruit de plus en plus grande. J'ai décidé de coller à cette forme, et à partir du moment où ma trompette se retrouvait sans sourdine, le temps de changement de sourdine, les modes de jeu, eux aussi, devenaient de plus en plus bruités. Donc en fait, c'est le dessin d'une forme qui m'a un petit peu poussé à chercher des sons de plus en plus bruités. Donc c'est vraiment l'un et on va dire est soumis à la volonté de l'autre. Dans ce cas précis, c'est vraiment une direction, une idée de dessin formel qui définit en fait la recherche des matériaux adéquats et donc de la réalisation. Donc la saleté n'était pas quelque chose qui m'intéressait en soi, c'était vraiment le parcours. Et ces sons sales sont sales selon le contexte dans lequel on les utilise. En jazz, j'ai entendu très peu de saleté en réalité.
Ah, il y a le fameux enregistrement de Miles Davis où on entend un petit bout de lèvre qui se coince dans l'embouchure, par exemple.
Oui, mais c'est très peu volontaire.
C'est plus un accident.
Hein. Voilà, ouais. C'est jamais très volontaire. Et pour avoir travaillé avec John McLaughlin et connu Miles Davis grâce à lui, justement, je sais vraiment par expérience que ces gens n'étaient pas attirés par le bruit pour le bruit. Donc,
non, vraiment, le bruit pour le bruit, certainement pas.
Certainement pas. Ouais. Non.
Ah, puisqu'on parle d'interprète, j'imagine que cette pièce qui a 20 ans, si elle est remontée aujourd'hui par de jeunes musiciens, de nouveaux interprètes, il faut peut-être la reporter aussi sur le plan électronique. Vous avez fait plusieurs versions, vous avez suivi l'évolution.
Alors, la version est toujours la version originale. De 95, la seule chose qui est portée, et merci à l'IRCAM de faire ce travail, qui est très important pour nous, ça veut dire d'assurer la pérennité informatique des œuvres. Donc évidemment, il faut porter le code informatique pour qu'il puisse tourner sur les ordinateurs les plus récents et sur les programmes qui font tourner ces mêmes programmes qui sont en fait des partitions de musique électronique à réaliser en temps réel, dans ce cas précis. Donc le portage consiste juste à s'assurer que le code fonctionne bien d'une version à l'autre, de tel ou tel système ou de tel ou tel ordinateur. Je pense que ce n'est pas un problème auquel j'ai été confronté directement. Il se peut que ça arrive un jour. Mais je sais que pour certains, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer.
Pour des pièces plus anciennes des années
70. Des pièces plus anciennes, ou même des pièces qui font appel à des matériaux, je pense par exemple un vibraphone MIDI, ou des instruments comme ça, et qui ne sont tout simplement plus fabriqués. On se retrouve avec une pièce pour laquelle les instruments n'existent plus. Donc oui, l'électronique, mais l'électronique avec des instruments augmentés, dans ce sens-là, peut devenir problématique. Le choix pour réplique, justement, est une augmentation relativement simple. On parle de cycles transduceurs qui vont en fait se servir de la caisse de la harpe, comme d'une membrane en bois, et d'un petit micro de contact qui est collé à l'intérieur. Donc un peu de pâte à fixe et le tour est joué. C'est pas quelque chose qui dépend d'une technologie lourde.
On revient en 1995 avec Metalix. Un extrait de Metalix pour trompette et dispositif électronique de Yann Maresch, ici enregistré par Jean-Jacques Godon. On faisait allusion à des jeunes interprètes qui reprennent cette pièce. Clément Saunier, par exemple, le trompettiste de l'ensemble Bataille Contemporain, l'a reprise relativement récemment. Et puis aussi avec la version avec orchestre, ça s'appelle Metal Extension, c'est ça Yann, si je me souviens bien.
Oui, c'est une version pour trompette solo et grand ensemble instrumental, 30 musiciens.
On vous connaît de longue date dans cette maison, Yann Maresch. Vous avez signé d'ailleurs quelques albums brevets, hein, c'était en 1998 déjà, les zigzags études. Alors qu'est-ce que c'est que ces zigzags études? Parce que l'étude, ça fait toujours un petit peu, comment dire, exercice de style. Comment est-ce qu'on s'en distingue quand on est un compositeur créatif?
Alors c'est des études pour orchestre et des études rythmiques. Alors je crois que c'est probablement la chose qu'un orchestre déteste le plus faire, jouer des rythmes tous ensemble et des polyrythmes, donc c'est encore pire. Donc évidemment, des études de rythme, c'est que des notes courtes avec différentes valeurs jouées par différents groupes instrumentaux les uns contre les autres. Ce sont des études rythmiques dans ce sens-là. Par contre, elles sont toutes basées sur le même rythme en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on perçoit sur certaines études qui ont des résonances par exemple la 1 et la 4, 2 et 5, Il y a aussi trois à certains moments, mais le moteur, comme toujours, est le même partout. Donc, c'est juste le fenêtrage sur ce moteur qui est différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
D'où l'idée du zigzag ?
Alors, le zigzag, c'est effectivement le parcours de ces petites fenêtres, mais il y a aussi une idée qui m'est chère et d'ailleurs qui me ramène un petit peu à toutes les pièces que j'écris depuis quelques années. C'est un programme informatique que j'ai développé avec l'aide de plusieurs réalisateurs en informatique musicale à l'IRCAM, qui est un programme de, on va dire, de synthèse sonore et de composition à partir de phénomènes rythmiques qui permet de gérer aussi bien l'écriture que la synthèse. Et d'ailleurs, Réplique utilise ce système à grande échelle. La notion en est très simple. Elle nous ramène à Stockhausen dans son fameux article « Comment le temps passe ».
Qui date des années 1950.
Voilà. Là, il s'agit évidemment de faire un rapport entre la fréquence et la période. Donc, notre système analyse n'importe quel agrégat ou hauteur et nous donne le contenu de ce spectre qui peut aussi devenir une superposition de valeurs rythmiques de périodes équivalentes. Donc on peut passer du timbre au rythme, du rythme au timbre, etc. Et dans Zigzag Étude, c'est la première fois où j'ai appliqué ce principe, mais à la main, à savoir que toutes les hauteurs et on va dire le contrôle intervallique de la pièce est basé sur le rapport entre hauteur et fréquence. Donc c'est un travail un petit peu de... Le zigzag, c'est l'ondulation des partiels dans le son, dans ce sens-là. Enfin, il y a une espèce d'allégorie autour de cet élément-là.
On ne va pas écouter les cinq études, mais les deux premières. Et puis, ça nous ramène à l'orchestre qui va vous jouer samedi prochain, puisque c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Samedi, ce sera Julien Leroy. Et là, c'était Pascal Roffet qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique. Les deux premières zigzag études de Yann Maresch. Les deux premières zigzag études pour orchestre de Yann Maresch avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Pascal Reffet, c'était en 1998. Yann Maresch, deux créations, enfin une création et une reprise, donc à l'affiche du festival Manifeste les 4 et 10 juin prochains. Ce sont des concerts que nous diffuserons d'ailleurs dans cette émission. Et pour la création de samedi prochain, ce sera diffusé dès lundi prochain, le 6 juin, dans cette émission. Sur quoi travaillez-vous sinon, Yann? J'imagine que là, vous êtes le nez dans le guidon pour la création.
J'ose
mais
avouer
après...
que je travaille encore sur le concerto de samedi, puisque la partie électronique, comme toujours avec l'électronique, c'est sans fin. On peut toujours en rajouter, en enlever ou peaufiner. Donc, on va dire que jusqu'à vendredi, je serai sur ça. Je pense après ça, j'ai plusieurs projets, et plusieurs envies aussi.
Encore du concerto?
Alors, il y a potentiellement deux concertos pour violon, oui. Pas un mais deux, et un probablement avec un ensemble un petit peu plus petit, et baroque, et un avec grand orchestre. J'ai envie d'un quatuor à cordes, d'écrire un quatuor. J'ai aussi une proposition, et je dois aussi écrire un double concerto pour deux fagottes et ensemble, pour mes amis hein. Pascal Gaulois et Paul Rivaud à l'Ensemble Intercontemporain, qui l'attendent depuis si longtemps. Voilà,
et puis vous avez fait une orchestration de Ravel, ce sera d'ailleurs diffusé le 17 juin sur France Musique, hein, dans le concert présenté par Dominique Boutel à 14h sur cette chaîne. Et c'était à Lyon le 9 avril dernier.
Oui, c'est l'orchestration de la sonate pour violon et piano, celle en sol, pour Renaud Capuçon et Leonard Slatkin à l'initiative de l'Orchestre de Lyon. Et c'est un projet qui m'a vraiment, vraiment passionné. C'est extrêmement difficile d'orchestrer du Ravel, pas techniquement, mais c'est plus, enfin si techniquement, mais le fait que ce soit du Ravel rend la chose bien pire. C'est une chose de le faire pour soi ou pour travailler, disons, avec une classe d'orchestration, c'est une autre que de le faire.
Oui, c'est pour que ce soit pas un exercice précisément.
Voilà, donc il faut trouver des solutions. Le violon est dans un registre pas tout à fait favorable pour l'orchestre dans cette pièce. C'est un exercice redoutable, ça m'a pris énormément de temps. Mais bon, je suis assez content du résultat et c'est quelque chose qui m'a passionné, vraiment passionné. Ça a été un grand plaisir et un immense honneur de faire ça.
Donc oui. On l'écoutera le 17 juin sur cette antenne à 14h. Mais dites-moi, dans cette sonate de Ravel, il y a un blues.
Il y a un blues.
Oui, c'est ce qui nous ramène à vos premières amours.
Ça me ramène ma formation.
Du guitariste.
Je dois parler de mon maître, John McLaughlin, qui est probablement le musicien qui m'a le plus appris dans ma vie. Et voilà, c'est lui qui m'a formé, on va dire, puisqu'avant lui, je jouais du heavy metal, puis du rock, moins heavy, mais enfin, c'était quand même pas très détaillé. Donc il m'a évidemment fait découvrir non seulement le jazz et les ressources de mon instrument, mais aussi le répertoire. Je pense notamment à Bartok, Stravinsky et des choses que finalement je ne connaissais pas du tout. Je devais avoir 15-16 ans et donc je lui dois énormément.
Vous faisiez allusion tout à l'heure à Miles Davis. On va se quitter avec une cascade for Donnelly. Donnelly, dans mon souvenir, c'est un thème de Charlie Parker et Miles Davis. Ça nous ramène au bebop, là. C'est quelque chose de virtuose.
Absolument. Oh, c'est une blague. C'est un bis pour piano qui m'a été commandé par une amie qui s'appelait Marianne Lee. Donc c'est une cascade pour Donnelly. Marianne Lee, mon amie, Madame Lee. Et alors, de fait, ça part d'un geste un petit peu boulésien, arpégé. C'est une longue interpolation entre ce geste initial, qui est assez symptomatique, on va dire, de l'écriture du piano 20e, et la grille du morceau de Charlie Parker. Donc, parce qu'en fait, je ne cite pas le thème à aucun moment.
Et Donnelly, c'était déjà un démarquage d'un standard. Hein,
oui, ouais. Absolument. Mais le thème aurait été... Bon, il ne m'intéressait pas de citer le thème. Par contre, d'utiliser la grille harmonique du terme et d'y faire... attirer comme un aimant ce matériau de la première mesure, c'est un petit projet d'écriture, on va dire, qui fait office de bis d'ailleurs pour le coup. C'est un encore qui est joué par des pianistes qui le souhaitent dans le cadre de récitals qui ne sont pas des récitals justement de musique contemporaine entre guillemets.
Alors je vais reposer autrement la question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous reste du jazz dans votre métier de compositeur aujourd'hui ?
Alors, je me pose la question et je ne trouve pas la réponse. Probablement, c'est le pragmatisme dont je parlais tout à l'heure.
Le côté musicien, artiste,
oui,
interprète, artisan.
L'incapacité absolue de suivre un mouvement ou d'avoir une réflexion théorique détachée pas détachée de la pratique, mais disons insouciante du côté pratique ou peu connectée finalement. Ça veut dire avec une grande idée de l'art, avec un grand art. C'est une démarche que je comprends, mais qui m'est très étrangère en tant que musicien. Et intellectuellement, j'adhère à ça. Je respecte et j'admire mes amis qui font ces démarches, mais je ne me sens pas dans ce métier-là.
Cascade for Donnelly, Daniel Maresch, un petit bis pour piano ici par Masha Belousova. Merci beaucoup Yann Maresch, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc votre pièce pour harpe concerto, pour harpe et orchestre, réplique en création samedi prochain, ici même avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Julien Leroy et en soliste Nicolas Tullier. Et nous diffuserons ce concert dans la foulée lundi prochain à 20h dans cette émission. Et la semaine prochaine, après ce concert, j'aurai le plaisir de recevoir un autre compositeur qui figure à l'affiche du festival Manifeste. Il s'appelle Emanuele Palumbo. Merci à Marion Guillemet qui nous a aidé à préparer cette émission et à Marie Grou pour la réalisation. Et nous étions en compagnie ce soir au studio 143 de Xavier Hatto, François Pron et Thomas Gouffier.